à visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.
Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous d'information à visage découvert. Vous êtes bien à l'écoute des programmes de Radio Orient et dans à visage découvert, l'heure est au bilan, analyse et décryptage des résultats des municipales 2026 qui ont, il faut le dire, marqué une avancée significative de la participation des quartiers populaires. Un sursaut civique et un engagement citoyen prometteur, il faut le dire, pour les prochaines échéances électorales. Alors aujourd'hui, on parlera de l'engagement citoyen, mais au féminin. Voilà, au féminin. Et j'ai l'énorme plaisir de recevoir Imane Suid, fraîchement élue à la tête de la ville d'Orly, en région parisienne. Elle a remporté donc ce scrutin avec brio à plus de 53% des voix. Sur le plateau exclusivement, donc, je vous le disais, féminin, Leïla Legmara, qui est adjointe au maire à Colombes dans le 92, et Ilham Montasser, qui est une ancienne adjointe au maire de Gonesse dans le 95. Madame la maire, bonjour et bienvenue dans les studios de Radio Orient que vous découvrez pour la première fois.
Bonjour ma chère Nadia et bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est une première pour moi, je l'avoue.
Et une belle première, on l'espère. Alors, parité, égalité, je disais, quel bilan ? Force est de constater que la parité a été scrupuleusement, il faut le dire, respectée par les partis politiques. Respectée, mais les hommes, il faut le remarquer, c'est assez significatif, on l'a vu effectivement pendant la campagne, occupent majoritairement la position de tête de liste. Résultat des courses, un nombre record de maires-hommes sans surprise. Ça vous fait sourire ?
Tout à fait, c'est une réalité. Heureusement que la loi a imposé cette parité sur les listes, mais on a encore un peu de travail à réaliser sur les têtes de liste et on a encore du chemin à faire ensemble en tant que femmes pour pouvoir arriver à ces postes aussi de tête de liste, puisque les femmes sont tout aussi capables et il faut le démontrer, mais pas seulement avec la loi. Et heureusement, aujourd'hui, on a quand même pas mal de beaux résultats qui le démontrent.
Alors, beau résultat, justement, vous me tendez la perche pour parler justement des conseils municipaux, parce que on notera une légère avancée par rapport à 2020, il faut le dire. Elles étaient 21%, aujourd'hui, elles représentent plus de 22,6%. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, dans les conseils municipaux, avec la nouvelle loi qui permet donc une meilleure représentativité, on a plus de femmes dans les conseils municipaux.
Tout à fait, puisque la loi oblige à cette parité sur les listes électorales. Donc, les listes doivent présenter autant d'hommes et de femmes. Et donc, ça, c'est une vraie avancée.
Et y compris dans les petites villes.
Et y compris dans toutes les villes aujourd'hui, puisque cette nouvelle loi ne fait plus aussi le panachage dans les petites villes. Donc, ça, c'est une vraie avancée. Et on a cette chance d'avoir de plus en plus de femmes qui prennent cette idée de se dire « on en est capable, c'est possible pour nous aussi » et de devenir tête de liste. Et on en est la preuve avec les collègues.
Vous l'avez dit justement, elles ont tendance à dire ça, c'est pas pour moi. On va y revenir, mais maintenant, je voudrais vous faire justement. Alors d'abord, Imane Suid, vous êtes née en Tunisie, dans une belle petite ville à Sayada. C'est bien ça qui est tout à côté de Monastir.
Tout à fait.
Magnifique. Vous arrivez donc en France à l'âge de 9 ans.
4 ans.
4
ans. J'arrive en France à l'âge de 4 ans en région parisienne, donc dans le Val-de-Marne.
Ouais.
Et à Orly, à 9 ans.
Donc à Orly, à 9 ans, accompagnée de votre famille, j'imagine.
Bien sûr, mes trois frères et sœurs, donc ma sœur et mes deux petits frères.
Voilà.
Je suis l'aînée de la fratrie, mes parents. Et nous arrivons en 1987 dans les cités orlysiennes à l'époque. Et puis j'ai fait toute ma scolarité dans cette belle ville d'Orly. Les écoles primaires qui étaient en ZEP, ce qu'on appelait à l'époque zone d'éducation prioritaire, le collège, puis lycée. Puis ensuite, je suis partie un peu à l'aventure, on va dire, puisque je suis partie à l'IUT de Sceaux, qui était pour moi une découverte. Et je ne vous cache pas que quand je suis arrivée à l'IUT de Sceaux, je me suis dit, il existe un autre monde que ma cité. Et ça a été une ouverture première sur ce qu'il est possible, même en étant issue des quartiers, qui a un autre monde que nos quartiers. Et ça, c'était une belle expérience pour moi.
Alors, Imane Suid, justement, vous venez de le dire, vous sortez de ce milieu, de ces quartiers populaires, et on a vu que cette fois-ci, les quartiers ont massivement voté. Je le disais en introduction, c'est plutôt salutaire pour les prochaines échéances électorales.
Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a réussi, en tout cas, à convaincre cette nouvelle génération ici de nos quartiers populaires. On peut-être enfin pris conscience qu'ils avaient la parole et qu'ils pouvaient faire bouger les choses et qu'ils pouvaient s'exprimer en toute liberté faire que leurs idées, leurs opinions soient entendues et partagées et puissent avancer dans le débat politique avec des personnes qui puissent les représenter et porter leurs idées aujourd'hui.
Ça a été le cas dans les quartiers populaires d'Orly, hein.
Tout à fait, on a eu une mobilisation puisque dans le bureau de vote par exemple où j'ai grandi, entre guillemets, dans le quartier où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait mon meilleur score avec plus de 68%.
68%.
Pour la liste que je portais, engagée pour Orly, utile pour vous.
Pour vous, c'est un sursaut civique, parce que ça a fait parler beaucoup de personnalités politiques. Certains y voient un vote ethnique. Est-ce qu'on est encore dans une république où ces citoyens peuvent se réveiller et avoir cette conscience aujourd'hui d'aller voter? C'est un devoir et voire un droit.
Bien sûr que c'est un devoir et un droit. Et puis je rappelle que s'ils ont la possibilité de voter, c'est qu'ils sont français.
Ouais.
Et qu'ils ont toute leur place dans la société.
Absolument.
Et quel que soit le vote. Et ce que je peux déplorer par contre, c'est une abstention. Et ça, sur Orly aussi, ça a été une réalité. Où on n'a pas eu un sursaut démocratique avec un vote conséquent non plus.
Oui.
Sur l'ensemble de la ville. Mais
il y a un réveil.
Il y a un réveil citoyen qui a eu lieu dans certains quartiers.
Comment vous l'expliquez? Par quoi vous l'expliquez justement? Il a été provoqué par quoi exactement?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. La société d'aujourd'hui avec des personnes et puis le débat politique, les réseaux sociaux, une jeunesse qui s'implique de plus en plus aussi. Et je pense que c'est le premier message en tout cas que moi j'ai souhaité porter avec mon équipe, c'est de se dire... cette jeunesse, c'est vous notre avenir, et donc il faut que vous soyez à notre écoute. Et c'est aussi le choix que j'ai fait en construisant ma nouvelle équipe municipale, en remettant et en mettant beaucoup plus de jeunes au sein de mon équipe, puisque j'ai deux jeunes qui sont 18 et 19 ans et des autres qui en ont 22, 23, 25.
Vous êtes maman de trois enfants.
Et voilà. Maman moi-même de trois enfants, mais dans mon équipe municipale, j'ai souhaité aussi qu'on puisse écouter, entendre et échanger avec cette jeunesse qui parfois a du mal à se faire écouter, à se faire entendre.
Alors vous vous êtes adressé pendant votre campagne à cette jeunesse. Quel a été le message fort que vous avez passé justement?
Vous avez toute votre place dans notre société, tout particulièrement dans notre ville d'Orly. Et donc on a besoin de vous.
Impliquez-vous.
Impliquez-vous et on a besoin de vous pour répondre à vos attentes et vous accompagner dans vos souhaits, dans votre volonté. Et de vous voir vous épanouir dans notre belle ville et dans notre société. Donc notre rôle politique en tant que maire que je suis, c'est de les écouter, de les accompagner, de leur apporter ce que je peux leur apporter à mon niveau en tout cas, et leur ouvrir certaines portes qui parfois sont difficiles à franchir.
Alors vous l'avez dit, l'abstention reste quand même assez significative dans ce pays. On a tendance à dire que c'est le plus grand parti de
tout
France par des abstentionnistes. Justement, on est à quelques mois de 2027. Est-ce que justement ce sursaut va gagner, j'ai envie de dire, en ascension?
C'est la grande question. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se ressort, et les politiques déçoivent plus qu'autre chose notre société et ne donnent pas forcément envie. Avant, je rappelle que l'élection la plus... où la mobilisation était la plus importante, c'est l'élection municipale. On s'aperçoit que ce n'est plus... aussi, ça ne fait plus aussi écho que ça.
Mais le maire est la personnalité politique la plus appréciée des Français,
tout
selon
à fait.
Les sondages.
Et celle-ci, malgré cela, on arrive à avoir un taux d'abstention assez conséquent. Donc l'élection présidentielle est un enjeu aujourd'hui où je ne vous cache pas que moi-même, je suis dans l'incertitude et dans le questionnement de ce qui nous attend et de ce qui va se passer pour le futur.
Donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur le terrain. C'est un vrai sujet.
Oui. C'est un vrai sujet. Et nous, politiques, l'ensemble, je pense les partis en particulier, mais pas que, l'ensemble des hommes et des femmes politiques, nous devons nous remobiliser pour redonner goût à cette politique et à cette vraie politique, celle qui écoute la population, celle qui entend cette détresse, celle qui fait que chacun puisse à un moment se dire mon vote peut compter, peut apporter, ma vision des choses est portée par telle ou telle personne et donc je peux avancer.
Vous avez dit Imane Sud et je pense que le mot est tout à fait adéquat. Redonner goût à la politique. Mmh. Justement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus goût à cette politique parce qu'ils sont déçus par la classe politique.
C'est malheureusement, je pense aussi l'image qu'on en donne. On a plus de 35 000 maires aujourd'hui. on parle dans les médias que des mères qui font du buzz, ceux qui ont des soucis ou des problématiques, mais tous les autres mères, la grande majorité, j'ai envie de vous dire, s'attellent au travail et quotidiennement interpellées, essaient de trouver des solutions au quotidien pour leur population, que ce soit du petit village urbain, que des grandes villes moyennes ou des grandes villes. C'est une vraie vocation d'être mère et d'être élue aujourd'hui, et je pense que la grande majorité de nos politiques et des élus sont dans cette dynamique, mais ce qui est souvent utilisé et relayer, ce sont plutôt les politiques qui font du buzz. Et c'est ça qui nous porte aussi préjudice au quotidien, où on donne une image qui n'est pas forcément celle de la réalité du quotidien d'un élu local. En tout cas, pas la mienne, puisque moi, je suis plutôt
confrontée. On va revenir justement sur votre programme et sur ce travail de proximité, parce que vous vous considérez comme la maire de proximité de la ville d'Orly. Je le disais, une participation des quartiers salutaires, mais qui suscite bien des commentaires. Et vous avez certainement suivi un petit peu cette parole raciste qui s'est à nouveau libérée. On l'a vu avec l'élection du maire de Saint-Denis d'origine malienne, Bali Bagayoko, élu dès le premier tour à 61%. Justement, dès le premier tour, un exploit, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui a élaboré son terrain depuis plus de 20 ans et personne ne l'avait remarqué. Et enfin, voilà. Le suffrage, effectivement, donne cette représentativité méritée. Les commentaires qui ont eu lieu, justement, sur certains plateaux ont suscité des réactions chez vous, lesquelles ?
Sont inadmissibles, inacceptables dans une société comme la nôtre. Et je pense que notre devoir de citoyen, c'est de dire non, stop, et que le racisme n'a pas sa place en France.
Ouais.
Ça, c'est vraiment le premier message qu'il faut qu'on véhicule. Et il faut que les outils, aujourd'hui, la justice et le gouvernement et tout ce qui est l'État, en tant que tel, réaffirment ce principe de notre République, liberté, égalité, fraternité, et que des propos racistes n'ont pas lieu d'être dans notre beau pays qu'est la France.
Vous considérez que, justement, que la classe politique n'a pas suffisamment bien réagi par rapport à ça ? Parce qu'il y a eu quand même un rassemblement formidable qui a réuni plus de 10 000 personnes à Saint-Denis.
Tout à fait.
C'était une vraie réponse.
Tout à fait, j'y
étais. Mais
une
réponse républicaine, vous y étiez.
J'y étais en tant que soutien républicain, puisque je ne suis pas du tout du même bord politique, puisque je ne suis pas LFiste. Mais il était important pour moi de soutenir de manière républicaine et dire non à toute forme de racisme, et ce qu'a vécu ce monsieur et mon collègue en tant que maire, qui a été élu, je le rappelle, par ses concitoyens. Et ça, on se doit le respect absolu. Et les propos racistes n'ont absolument aucune légitimité. Ils ne doivent absolument pas être tolérés. Et nous allons d'ailleurs passer un vœu au conseil municipal de demain soir pour voter et rappeler ces principes qui fondent notre République de liberté, d'égalité et de fraternité contre le racisme.
Voilà, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Votre parcours, bien sûr, c'est votre première élection, mais en même temps, vous avez été déjà maire d'Orly, puisque vous avez remplacé l'ancienne maire qui a pris sa retraite. Voilà, on va dire ça comme ça. La ville d'Orly, vous ne la découvrez pas, vous êtes pratiquement né, vous avez grandi, vous connaissez très très bien cette ville et sa population. Vous êtes présenté sur une liste divers gauche, c'est ça ? Vous êtes une femme de gauche, on ne peut pas le cacher.
Je ne le nie pas, bien au contraire, je l'assume pleinement.
Pleinement. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, justement, avec cette élection, vous dites « Ouais, j'ai travaillé, mais j'ai obtenu des résultats ». Est-ce que la population adhère à votre programme ? Par ce résultat que vous avez obtenu, c'est une forme d'adhésion au programme que vous avez présenté pendant la campagne.
En tout cas, on le considère comme tel, puisque le résultat, avec près de 53% d'électeurs qui ont voté pour la liste que je portais, donc engagée pour Orly, utile pour vous, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ma marque de fabrique, si je puis dire, c'est l'engagement citoyen. Je n'ai jamais été encartée, je n'ai fait partie d'aucun parti politique. Et pour moi, cette liberté est de me dire je m'investis pour ma ville en tant que citoyenne. C'était vraiment ce qui me marque et ce qui me définit. Et cette proximité avec mes habitants, moi, je fais mes courses dans le centre commercial de la ville. J'achète ma baguette au coin, je vais à ma pharmacie. On me connaît, on me croise dans la rue. Oui, ça prend du temps. Oui, quand je vais au supermarché faire mes courses, je sais quand je pars, je ne sais jamais quand je rentrerai chez moi, puisque vous pouvez être arrêté toutes les deux secondes sur une demande de logement, une demande de place en crèche, des problématiques du quotidien d'un habitant, la problématique du pouvoir d'achat. Et tous ces sujets font le quotidien des habitants.
Vous êtes à l'écoute continuellement, bien sûr, de la population.
Et je pense que c'est le rôle premier d'un élu local, c'est d'être là, à l'écoute de sa population. C'est un temps qu'on donne à sa population, et c'est ma vision de la politique aujourd'hui. On est au service de notre population. Et donc, c'est une dévotion qu'on doit avoir et ne pas se dire « je veux de la tranquillité ». si on veut de la tranquillité, on fait autre chose.
Alors justement, l'ancienne maire qui a démissionné, Christine Jeannaudet, reconnaît en vous de grandes qualités professionnelles. Vous avez été conseillère municipale déjà, chargée des affaires scolaires. Vous êtes une femme d'action, vous travaillez constamment avec une énergie, dit-elle, je cite justement l'ancienne maire, une énergie constante. Qu'est-ce qui fait, selon vous, quelles sont les qualités qui font un bon ou une bonne maire?
Je pense qu'avant tout, il faut aimer l'humain. Si vous n'aimez pas l'humain et les gens,
il faut
faire autre chose. Là, c'est la première chose. Après, c'est un travail colossal, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on demande à un maire, ce n'est pas seulement de serrer des mains et faire des sourires, c'est aussi de s'emparer des dossiers avec des enjeux et des problématiques où les finances locales sont mises à mal. Et donc, il faut trouver des solutions, être innovante, connaître ses dossiers, avec une vision de sa ville de demain, avec des aménagements à réaliser, des choix, des arbitrages. Et pour faire ces choix et ces arbitrages, il faut connaître ses dossiers. Donc, il faut travailler ces dossiers, travailler la relation avec les partenaires institutionnels qui sont importants puisque c'est eux aussi qui financent les projets de la ville, tout en étant toujours à l'écoute et à l'attention de ses concitoyens.
Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ça c'est pas pour moi, c'est une grande responsabilité, est-ce qu'il y a eu des appréhensions?
Bien sûr, quand Madame Jeannaudet m'a proposé de prendre le relais, je vous cache pas que j'ai pas tout de suite dit oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je me suis beaucoup questionnée pour plusieurs raisons, puisque c'est un engagement justement qu'il faut ne pas prendre à la légère,
ouais.
Un engagement constant, une notion de responsabilité énorme, c'est surtout ça aussi, c'est la vie entre guillemets de 25 000 habitants que vous allez peut-être changer ou en tout cas accompagner durant ce mandat, donc des nuits très courtes et un travail très important à donner et une vie publique, entre guillemets, puisque votre vie privée n'est plus vraiment privée.
Alors, la question qui allait suivre, justement, comment vous faites pour concilier vie privée, vie professionnelle?
Ce n'est pas toujours évident, je ne vous le cache pas. Et c'est vrai qu'on met parfois entre parenthèses, malgré nous, notre vie personnelle pour pouvoir donner ce temps à notre ville. Et c'est pour ça que je pense que ces fonctions ne sont pas des fonctions qu'on peut mener à vie, mais ce sont des temps qu'on doit et qu'on a envie de donner aux autres à un moment donné, et que après, est-ce que c'est pour ça que Madame Jeannaudet, je pense, a fait ce choix à un moment donné de reprendre sa vie personnelle et de pouvoir pouvoir profiter de nouveau de sa vie privée et de tous ses bienfaits.
Est-ce que vous avez un message à faire passer aujourd'hui à des femmes qui nous écoutent et qui n'osent pas encore cet engagement? Est-ce qu'il faut réorganiser un peu le temps de travail? Parce que souvent, les réunions des conseils municipaux se font le soir, tardivement, et les femmes ne sont pas disponibles parce qu'elles doivent être aux côtés de leur famille, derrière les fourneaux, j'en passe et des meilleurs. Voilà.
La première chose que j'ai envie de dire, c'est que tout est possible. J'en suis la preuve vivante. J'avais pas un parcours dédié du tout à faire de la politique et à avoir un mandat électif. Et à force de travail et puis d'acharnement, entre guillemets aussi, et d'investissement personnel, on arrive à réaliser ses rêves. Peut-être plus que d'autres. Peut-être qu'il faut en faire beaucoup plus que d'autres en tant que femme, en tant que femme issue des quartiers et en tant que femme issue de l'immigration.
Mais c'est souvent
également.
Le cas, les femmes font plus que,
voilà,
plus que les hommes.
Voilà, sont obligées de faire trois fois plus, mais on peut y arriver. Et ça, c'est vraiment le premier message qu'il faut, ne jamais abandonner et poursuivre pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie. Ensuite, sur l'organisation, c'est vrai qu'il faut pouvoir compter sur ses proches et pouvoir avoir le binôme ou le partenaire qui vous permette d'avoir cet équilibre. Et je sais que beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes sont aussi là pour accompagner et nous aider en tant que femmes pour réaliser ce que nous avons envie de faire. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut faire passer comme message, c'est que c'est un travail collectif qui permettra à nous femmes et à toutes les femmes de pouvoir avancer et occuper des postes.
Mais c'est un message très fort, chère Imane Suid. Vous vous adressez aux femmes et aussi aux hommes, parce qu'une société n'est debout que grâce aux deux, envie de dire, les femmes et les hommes. Il ne nous reste plus qu'une minute avant de passer justement aux deux autres invités. Quelle est la première action que vous allez mener? Parce que là, vous allez nous quitter, justement, puisque, il faut le dire, hein, les agendas sont déjà overbookés. Voilà, en tout cas, merci d'être venu dans nos studios. Juste une première action que vous allez engager dès les 100 premiers jours.
L'une de nos premières actions et un engagement qu'on avait pris lors de notre campagne, c'est de s'adresser justement à cette jeunesse. Et aujourd'hui, moi, ma vision de la politique, c'est on fait avec les gens et donc on va organiser les assises ou les rencontres de la jeunesse dès avant cet été pour écouter cette jeunesse qui a besoin d'être entendue aujourd'hui, qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie et que nous souhaitons en tout cas, prendre le temps de les accompagner et de construire avec eux un projet qui leur correspond et pas seulement avec nous, nos idées, mais avec eux. Et donc ça, ce sera l'un des premiers engagements. Deuxième engagement, c'est de travailler aussi au cadre de vie, à l'amélioration du cadre de vie de nos habitants, avec aujourd'hui des enjeux sur tout ce qui est le climat qui sont importants, et donc des rafraîchissements et de la création d'îlots de fraîcheur dans l'ensemble de nos quartiers. Et donc ça, ce sont les deux mesures phares qu'on va mettre en place dès ces premiers mois de travail, en plus du quotidien et de toutes les rencontres et de tous les engagements qu'on aura et qu'on a pris sur notre programme.
Bah, j'ai envie de vous dire... Vous avez du pain sur la planche, hein. Le programme est très riche et très ambitieux. En tout cas, on vous souhaite bien sûr plein succès dans vos nouvelles fonctions, maire de la ville d'Orly. Merci d'être venu dans nos studios. Et avant de passer aux deux autres invités, Leïla Lagmara, adjointe au maire de la ville de Colombes dans le 92, et Ilham Montassier, ancienne adjointe au maire de la ville de Gonesse dans le 95, et elle est aussi secrétaire générale de l'Observatoire de la diversité, c'est justement un bel outil et c'est tout récent. Voilà, vous allez découvrir ça. Si vous voulez en savoir plus, et bien restez branchés sur Radio Orient. La suite de l'émission, donc c'est ce soir à 22h et la diffusion demain, jeudi, donc matin, à 8h du matin, si vous êtes matinale, dans la matinale de Radio Orient. Et puis, bien sûr, vous voyez l'intégralité samedi à 9h du matin. Et je vous souhaite une très bonne écoute et une excellente journée.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.
Amis auditeurs, rebonjour, merci de nous rejoindre. Retour sur le plateau de votre émission À visage découvert. Aujourd'hui, un rendez-vous exclusivement féminin. Et nous allons essayer de voir si justement le dernier scrutin a pu faire émerger des femmes et donc une féminisation un peu plus importante, moins importante dans les conseils municipaux. Les femmes ont-elles des délégations qu'elles méritent? Et souvent, ce n'est pas le cas. C'est souvent réservé, bien sûr, aux élus hommes. Et on les voit puisqu'ils sont pour la plupart, têtes de liste. Les têtes de liste, on les voit. De toutes les façons, vous avez certainement suivi de près cette campagne électorale. Et aujourd'hui, je reçois trois femmes. On vient d'écouter donc, la maire d'Orly, qui nous a quittés pour des raisons familiales. Elle a un engagement. Et puis, bien sûr, j'ai l'énorme plaisir de recevoir deux autres profils de femmes, et pas des moindres, vous allez voir. Il s'agit de Leïla Lagmara. Bonjour.
Bonjour.
Et à ses côtés... pas en face, parce que c'est à ses côtés, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de face-à-face. Et en face, c'est Ilham Montassier, que je reçois avec Moustachir, que je reçois avec plaisir, parce qu'elle connaît très bien la maison. Voilà, et elle était passée dans pas mal de mes émissions. Bonjour.
Bonjour Leïla.
Bonjour Nadia, pardon.
Alors, donc, du coup, Leïla Lagmara, pour vous présenter très, très rapidement, donc, ça fait plus de 25 ans que vous êtes sur le terrain, quoi. Vous n'êtes pas une novice dans la politique. Hein. Mmh. 25 ans à Colombes, dans le canton Vaud-Douze. Vous êtes chargée aujourd'hui de l'hygiène, de l'environnement, du bien-être. Et quoi encore, j'ai oublié ?
Oui, de la propreté, qui est un gros dossier. Hein. Ça fait la propreté toujours une priorité municipale, un peu comme la sécurité. Et puis aussi la cause animale. Je suis très attachée à cette délégation parce que je suis très attachée au bien-être animal et à la souffrance animale.
Alors, pour continuer un petit peu sur votre parcours, parce qu'on pourrait y passer même toute la journée, vous êtes une centriste très proche du MoDem. Vous étiez très proche du MoDem autrefois, mais aujourd'hui, vous êtes Renaissance, c'est bien ça? Non. Alors, dites-moi.
Alors, moi, j'ai effectivement mon engagement politique que j'ai commencé en 2000, était à l'UDF, qui ensuite est passé MoDem. Donc, j'ai eu un bref passage par le MoDem, mais bon... j'ai préféré quitter le MoDem, donc mais mon engagement a toujours été centriste. Aujourd'hui, je suis Horizon, je suis déléguée municipale et j'ai été chef de file Horizon.
Vous avez été adjointe déjà au maire à Colombes de 2001, 2008, c'est bien ça, corrigez-moi si c'est faux. Conseillère régionale d'Île-de-France 2004 à 2010 et vice-présidente, bien sûr, ça on n'oubliera pas de le dire, puisque c'est aussi l'objet de cette émission, de l'Association nationale des élus locaux de la diversité. Vous êtes la vice-présidente dans l'ombre et celui qu'on voit le plus, bien sûr, s'appelle Kamel Hamza, que nous saluons.
Voilà. Absolument.
Donc, mais vous avez un métier, parce que vous n'avez pas fait que de la politique, vous êtes professeur, c'est bien ça.
C'est ça. Voilà. J'ai commencé ma carrière dans l'enseignement. Voilà, je
professeur suis, de formation.
Voilà, je suis professeur de formation, je suis titulaire d'un CAPES. Et j'ai enseigné pendant de nombreuses années avant de bifurquer vers la politique.
Alors, comment c'est venu la politique ? Soudain, un beau matin, vous vous êtes réveillé, vous avez dit « Non, moi, je vais faire de la politique ».
Dites-moi. Oui, alors ça peut paraître un peu présomptueux, mais on est venu me chercher.
Ah,
c'était à une époque...
Qui on ? C'est indéfini. On,
alors hein. Oui, effectivement, et j'aimerais lui rendre hommage parce qu'il n'est plus de ce monde. Ah. Mais c'était un homme, Arnold de Boer, qui m'a fait confiance.
D'accord.
En 2001. C'est quelqu'un que j'ai connu, qui était le voisin de mes parents.
Oui.
Et quand il a décidé de conduire une liste au municipal, en 2001, il est venu me chercher. Il m'a dit, écoute, tu as un profil très intéressant au regard de ton parcours et j'ai besoin de femmes comme toi. Alors, il est vrai que c'était le début de l'émergence des femmes en politique, de la parité. Donc, ouais. On avait besoin de femmes. Et puis, on avait aussi besoin de femmes issues de la diversité. Donc, c'est vrai que je cochais quelques cases. Voilà.
Je vous dis, avec les femmes, on est égalité, diversité, parité, on coche plusieurs coches.
Ah ouais. Bah c'est en fait, à moi toute seule, je cochais plusieurs cases. Et puis en plus, ce qui était rare à l'époque, c'est que j'étais de droite, centre-droit, mais c'était plutôt rare. Avoir des personnes issues de la diversité à droite, c'était extrêmement rare.
Alors, et en face de vous, vous allez voir, donc c'est pas un face-à-face, vous avez une femme de gauche, n'est-ce pas ?
De gauche, mais sans étiquette. Je
oui, oui, indépendante, mais voilà. De gauche, sans étiquette.
De gauche, sans étiquette.
Moustachir.
Moustachir,
ça veut dire conseillère.
Voilà, et tu veux toujours que je gagne, Montasser. Tu m'appelles toujours Montasser, chère Nadia.
Mais c'est un lapsus très révélateur, ça va arriver.
Tu veux que je gagne.
Alors, vous êtes notre troisième invitée. Je vous le disais, vous êtes de gauche, on vous connaît depuis longtemps. Vous avez aussi un ancrage local. Vous incarnez l'engagement constant au service des citoyens. Vous avez été adjointe au maire de Gonesse, donc dans une ville de 27 000 habitants. Vous avez été en charge du développement, et tenez-vous bien, économique, des projets du Grand Paris, du commerce, de l'emploi et de la formation professionnelle. J'ai envie de dire rien que ça. Et souvent, ces délégations sont destinées aux hommes, n'est-ce pas ?
Exactement.
On est venu vous chercher, vous aussi ? Ou alors vous avez dit
oui.
Non, moi je connais mes compétences.
Alors, moi, si vous voulez, j'étais déjà dans le monde associatif. Donc, depuis des années, j'étais dans le monde associatif,
ouais.
Présidente d'une fédération de parents d'élèves.
Ouais.
Comme tu le sais, j'ai un enfant et je l'ai accompagné de cette manière-là parce que ouais. J'étais très occupée au niveau professionnel et au niveau associatif. Et par la suite, j'ai créé un cercle de femmes parce que j'ai observé justement dans le monde professionnel comme
l'absence
dans le monde
l'absence
de visibilité des femmes.
Oui.
Et j'avais envie de travailler avec ces femmes sur le terrain pour comprendre pourquoi.
Et vous leur avez donné de la voix, c'est ça ?
Exactement. Donc
oui.
Avec moi, j'avais des femmes issues de tous bords, des femmes au foyer, des femmes mères adjointes à l'époque, politiques, des médecins, même colonels de la gendarmerie, commandant de la gendarmerie qui est maintenant devenu général.
Ouais.
Donc j'avais vraiment des femmes avec moi pour passer cette envie de prendre la place qu'elles méritent.
Oui, mais c'est toujours d'actualité parce que... Elle n'accepte pas, elle n'ose pas encore l'engagement. Vous avez un enfant, un grand garçon que nous saluons, et Madame Le Gmara, Leïla, est célibataire. Est-ce que justement, pour faire de la politique, il faut être libre ?
Alors, je ne suis pas sûre qu'être mariée empêcherait d'être libre. Je suis libre dans mes engagements, dans mes choix. J'ai été éduquée comme ça, ouais. avec ce goût de la liberté. Je sais que mes parents nous ont beaucoup poussé, nous sommes deux filles et deux garçons, mais mes parents nous ont beaucoup poussé à ce que nous fassions des études, à ce que nous soyons des femmes indépendantes, émancipées. Et ça, c'est comme ça que je me suis construite. Et tout mon parcours, j'avais un petit peu en ligne de mire cette... ce goût de la liberté qui m'avait été inculqué, notamment par mon père, pour qui les études étaient extrêmement importantes.
Donc, nous saluons vos familles. On n'a pas dit les origines, mais d'abord, vous êtes française. Vous, Leïla Le Gmara, vos parents viennent de Sétif, c'est une belle petite ville donc, dans l'est d'Alger. Et puis, notre ami est d'origine marocaine. De quelle ville exactement ?
Kenitra.
Kenitra, on connaît bien cette ville, Kenitra, puisque Feu Boudiaf avait vécu dans cette petite ville, Kenitra. En tout cas, c'est quand même important de vous situer de par vos origines, parce qu'aujourd'hui, la diversité, il y a des avancées considérables. Vous l'avez toutes et tous constaté, c'est une fierté. Alors, un record de participation dans les quartiers populaires, qu'est-ce que ça suscite comme commentaire chez vous, Leïla ou Ilham? Une fierté, oui, c'est un sursaut civique, citoyen, républicain. Certains de la classe politique française disent que, bon, on assiste à un vote ethnique. C'est insulter la République et insulter aussi la citoyenneté de ces jeunes.
Exactement, parce que, je veux dire, on est tous français d'abord. Qu'on vient de quartier ou qu'on vient de grande ville, on est tous français. Donc, pour moi, c'est une fierté déjà que tout le monde vote,
oui.
Que tout le monde prend sa place, que tout le monde assume ses devoirs pour avoir ses droits.
Oui.
Donc, c'est une logique. Donc, c'est pas...
Il y a eu un réveil, là, d'après vous ? Il y a eu un réveil,
je pense que le réveil se fera de plus en plus, parce que les gens observent qu'il y a quand même un problème dans notre société. Il y a un vrai problème,
oui.
Et que pour résoudre ce problème, il faut prendre sa place. Et pour prendre sa place, il faut agir.
Alors, vous avez été vice-présidente de l'association des élus issus de la diversité depuis plus de 10 ans, voire 15 ans.
Oh oui, oui, même plus, oui.
C'est une association qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit parce que, bon, vous avez même été en contact avec le Qatar qui voulait justement promouvoir un petit peu les jeunes de ces banlieues. Bref, c'est dire que cette problématique, vous la connaissez justement. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci ? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience ? Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic, Leïla Le Gomara ?
Alors, déjà, moi, effectivement, je partage ce constat. On a de plus en plus de jeunes, parce qu'il s'agit aussi essentiellement de jeunes, issus de la diversité, issus des quartiers, en fait, qui ont compris qu'ils avaient des devoirs, mais aussi des droits.
Ouais.
Et voter est un droit. Quand on est français, c'est une chance d'avoir ce droit. Il faut l'utiliser. En tout cas, moi, c'est le message que je fais véhiculer lors de la campagne.
Non, mais
voter
conscient,
à gauche, voter à droite, voter ce que vous voulez, mais voter.
Oui, mais ils étaient conscients, justement, que le vote
c'est un pouvoir de
souveraineté. Mais il y a un dégoût par rapport à la classe politique, Leïla.
Je vais t'expliquer. Déjà, depuis un petit moment, on voit que les jeunes de quartier,
ouais.
Ils créent leur emploi. Moi, ça, je l'ai observé sur le terrain.
Oui. C'est, bah, vous êtes malheureusement, chef d'entreprise, à la base.
Ils ont tellement rencontré des obstacles pour travailler dans des entreprises, véritables entreprises, de grandes entreprises, etc.
Des entreprises
ont créé leur propre emploi en devenant des entrepreneurs, en devenant des commerçants. Donc, à un moment donné...
Ils ont arraché leur place au sein de la société.
Voilà, ils ont arraché leur place dans la société. Donc, pour arracher aussi leur place dans la politique... Bah, il fallait agir, il fallait aller voter, tout simplement.
Ouais.
Et c'est vrai que, bon, pendant des années, on a observé qu'ils n'allaient pas voter parce qu'ils ont perdu confiance. Il faut le dire, on a perdu confiance dans la politique.
Ouais.
Moi, la première, j'étais politique, je me suis retirée. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des injustices.
Pourtant, et vous avez quand même occupé des postes stratégiques.
Et j'avoue que des fois, on va le dire clairement, on n'est pas écouté en tant que femme. Même si on a des idées, même si on veut faire avancer les choses, mais je pense que on le voit sur le terrain, on voit dans la société, on le voit même dans le monde. S'il y a plusieurs femmes au pouvoir, je pense qu'on n'en serait pas là.
Mmh. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est trahir un secret. En tout cas, vous êtes la secrétaire générale d'un observatoire de l'égalité, de la diversité plus exactement, qui est présidé par Benjamin Stora. Est-ce que c'est un scoop, une exclusivité pour Radio Orient ? Oui, non, Ilham,
c'est une exclusivité, oui, c'est sûr qu'on n'en a pas parlé encore.
Ouais.
On est en train de créer notre site.
C'est acté, c'est créé.
C'est acté, bien évidemment. Les statuts, ils ont été déposés à la préfecture. Le bureau est constitué. On a déjà commencé à faire des tribunes. On a déjà 9 groupes de travail qui sont sur le terrain.
Mais que vous allez nous faire, l'observatoire ? Leïla Le Gomara, vous pouvez aussi commenter. Vous allez nous faire des constats, parce que l'observatoire, c'est quoi ? C'est calculer, évaluer, c'est quoi la force de frappe de cet observatoire ?
J'espère sincèrement que je vais réussir cette mission, déjà, c'est la première des
choses. On vous souhaite.
La mission de cet observatoire, d'abord, c'est observer
ce qu'on fait. On s'en indique, oui.
Analyser et documenter la diversité dans toute sa forme, ses formes.
Oui.
D'accord. Après, produire des études,
de la réflexion,
on a commencé à le
faire,
de la réflexion, produire des études, des rapports, des indicateurs fiables, pour les présenter.
Vous allez les chercher justement,
on
va avoir des statistiques ethniques ou pas ?
On a des chercheurs et on a des scientifiques.
C'est, en fait, nous, oui, on, oui, avec l'ANELD, on a essayé de travailler sur ces questions. On a fait beaucoup de benchmarks. C'est pour ça qu'on nous a fait des voyages d'études, notamment au Canada et aux États-Unis. Oui. Parce que pour eux, les statistiques ethniques, ce n'est pas un sujet. Hein, ça se fait et c'est ce qui permet de mesurer les discriminations et de pouvoir mettre des politiques correctives.
C'est encore un sujet tabou.
Et nous, c'est totalement tabou. On s'est heurté, notamment avec Kamel Hamza et tous les membres de cette association, à ce qui est impossible en France. Donc, c'est vrai qu'on n'arrivait pas à avancer sur ces sujets. Et parfois, je pense que si on veut mesurer toutes les discriminations subies, parce qu'elles sont réelles dans notre pays, il faut pouvoir les mesurer et mettre en place les politiques correctives. Mais à chaque fois, on nous oppose la République est une indivisible, les statistiques ethniques, c'est non. Donc, on n'arrive pas vraiment à avancer sur ces questions. Donc, un peu, on contourne. Hein. C'est ce que font les chercheurs. Ils contournent quand même, voilà, pour essayer d'avoir une photographie de la situation. Exactement. Sinon, on n'avance pas.
Alors, nous, on voudrait avoir une photographie de l'égalité femmes-hommes, justement. L'égalité et la parité à l'issue, justement, de ces élections. On a vu que dans les conseils municipaux, il y a plus de femmes, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, et ça, c'est grâce au nouveau mode de scrutin. Mais par contre, sur les grandes villes de plus de 100 000 habitants, elles étaient 12, mères, femmes, donc, et elles passent à 8 femmes, 8 mères. Donc, il y a une régression. Dans, justement, les conseils municipaux, en l'occurrence, les délégations, parce que c'est là où le bât blesse, on voit qu'effectivement... L'enfance, peut-être parfois de temps en temps la santé, c'est réservé justement aux femmes. C'est
vrai ou faux? Je suis d'accord. J'ai moi-même été deux fois maire adjoint à l'éducation et à l'enfance. Et cette fois-ci, j'ai décidé de prendre une délégation entre guillemets masculine, la propreté.
Même la propreté, c'est une délégation masculine.
C'est plutôt masculin parce que c'est technique.
Position, c'est ça, vous êtes en troisième position.
Je suis en troisième position, voilà, oui. Absolument. Et c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Le maire m'a donné carte blanche sur. J'ai même été tentée à un moment donné à prendre la sécurité.
Oui,
et puis je me suis rétractée, mais je me suis dit la propreté. Voilà, j'ai vu tordre le cou un peu ne pas être cantonné à une délégation féminine, parce que c'est vrai, vous avez raison, il y a des délégations qui sont un peu réservées aux femmes et d'autres
mais
aux hommes.
Mais c'est la faute à qui, Ilham Moustachir, justement,
c'est aussi
c'est la faute à qui. Est-ce que ce n'est pas les femmes qui sont au censure?
Si, c'est notre faute à nous aussi.
Alors racontez-nous, vous, comment ça s'est passé? Vous avez quand même pris une délégation hyper importante, développement économique, formation professionnelle,
Je l'ai dit au départ, j'étais dans le monde associatif. Donc j'avais vu déjà une partie, l'éducation, parce que j'étais présidente d'une fédération de parents d'élèves, j'ai vu l'éducation. J'étais aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'étais présidente d'un conseil local de la vie associative avec une centaine d'associations culturelles, sportives et sociales. Donc, j'ai vu aussi toutes ces parties-là, je les ai vues. Quand on voulait me proposer la démocratie participative, c'est-à-dire les associations, puisque j'avais une expérience des associations. Là, je leur ai dit non. Moi, j'ai besoin de...
J'ai déjà fait ça.
J'ai déjà fait ça, j'ai déjà vu ça. J'ai envie de faire autre chose qui correspond aussi à mes compétences, puisque j'étais cadre dans un grand groupe. J'ai envie de voir autre chose, donc j'ai envie de prendre... Donc, on m'a proposé le développement économique, le commerce, l'emploi et la formation. Et là, j'ai dit oui.
Vous avez dit oui, donc c'est une proposition.
Parce que j'ai refusé l'autre.
Parce que vous avez refusé
quelque chose qui correspond
à mes
compétences.
Parce que déjà, on vous réservait un petit fauteuil. Il y a les grands et le petit fauteuil, c'est ça. Et donc, les femmes, aujourd'hui,
elles veulent
arracher des grands fauteuils.
En fait, c'est aussi une démarche. Mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est vrai que les femmes, parfois, elles s'auto-discriminent.
Ouais.
Elles disent, elles s'orientent naturellement. Hein. Il y a comme un déterminisme dans le choix à prendre des délégations.
Vous dites naturellement.
Ouais,
vous imaginez un petit peu.
Et moi, en fait, il a fallu que je sorte un peu de ma zone de confort en disant, je veux... m'écarter de toutes les délégations dans lesquelles on pourrait me voir.
D'accord.
Moi, je vais diriger des hommes. Oui, je suis dans un truc très technique. Donc, je trouve ça plutôt bien.
Ah, pour la cause animale, qu'est-ce que vous allez prendre comme...
La cause animale, moi, c'est une cause qui me tient à cœur, parce que moi-même, je suis propriétaire de chiens. Donc et moi, je suis très sensible à
l'annonce est faite sur notre antenne.
Comment?
J'ai dit l'annonce est faite sur notre antenne.
Oui, parce que je suis très, très sensible à la souffrance animale. Et je trouve que c'est de plus en plus de municipalités s'intéressent à ce sujet.
Oui.
Beaucoup de municipalités ont fait de grandes choses et moi, je vais faire de grandes choses pour la cause animale. Et je ne veux pas que ce soit un sujet anecdotique, c'est un sujet à part entière.
Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet de société. Sujet. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont propriétaires d'animaux, et donc c'est une cause qui leur tient à cœur.
Donc c'est un défi que vous voulez relever.
Oui, voilà. Un grand défi.
Et le grand défi de Ilham Moustachir.
Moi, j'ai envie de passer mes compétences, mon expérience à d'autres femmes, à d'autres élus. Pour dire qu'il faut oser. Il faut oser parce que je comprends...
Alors ça, c'est le message que vous adressez aux auditrices. Alors, on écoute.
Pourquoi elles n'osent pas. Je le comprends parfaitement parce que je suis passée par là. J'ai vu, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde politique ou même personnel, si on ne prend pas notre place, on ne nous la donne pas.
Mais vous dites, vous comprenez, il faut aller vers une réorganisation, j'ai envie de dire,
de la société
des fonds en comble, qui réserverait plus d'espace à la présence féminine.
Exactement.
Dans les réunions nocturnes, en l'occurrence, parce que souvent, ça se passe le soir et les femmes ne sont pas...
Ah non, j'ai toujours été.
Disponible.
C'est ça le problème.
C'est
que,
voilà,
j'ai toujours été. Je suis mariée,
avec
j'ai
un enfant.
Toujours le même mari, Dieu merci.
Ouais.
Mais j'ai pris ma place, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans ma vie politique. Mais si on le fait pas, on nous le donne pas.
Vous dites les maris, justement. Est-ce que votre mari vous a aidé, vous a encouragé? Il n'a pas été un frein?
Non, jamais. Jamais, parce que depuis toujours, mon mari, je le connais, j'avais 17 ans, donc il connaît mon caractère depuis l'âge de 17 ans.
Et votre tempérament, bien sûr.
Il connaît mon tempérament, et donc je ne pourrais pas accepter un manque de liberté ou qu'on me freine.
Vous voyez, ça s'entend, la rebelle,
Mais il faut, parce que c'est vrai que, vous savez, moi, la politique, je compare ça un peu au darwinisme.
Ouais.
C'est survivre en milieu hostile. C'est un milieu qui est hostile pour tout le monde.
Tout à fait.
Pour tout le monde, hommes et femmes, mais sans doute encore plus pour les femmes. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de pugnacité, de combativité, parce que c'est un milieu qui est redoutable.
Mais j'ai envie de dire, il faut avoir la peau dure, quoi.
Il faut
avoir une carapace.
Voilà, mais ça n'empêche pas d'être très sensible. Moi, je suis quelqu'un d'une extrême sensibilité et on a besoin de ça parce que l'empathie, c'est important en politique.
Alors, en une minute, vous allez vous la partager, vous deux, donc Ilham et Layla. Quel est le message que vous voulez adresser aux auditrices qui nous écoutent?
Moi, je voudrais
oser l'engagement. Au micro.
Alors, moi, le message que j'ai envie de passer, c'est d'abord être soi-même. Il faut qu'elles soient vraiment, qu'ils ont confiance en elles et qu'ils prennent leur place d'une manière ferme, d'une manière, bien évidemment, avec beaucoup de bienveillance, de l'empathie, mais en même temps, exiger d'avoir leur place et de prendre leur place. Moi, je vois, par exemple, dans les réunions, les hommes, souvent, ils monopolisent la parole.
Ouais.
On ne nous laisse pas placer un mot, une phrase.
Ou alors, on ne vous écoute pas.
Ou bien, on ne nous écoute pas. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, franchement, il faut prendre sa place. Moi, des fois, je dis, écoutez, c'était toujours ma phrase quand j'étais vice-présidente à l'agglomération. On n'était que 4 femmes, d'ailleurs, vice-présidente plusieurs hommes, je ne me rappelle pas le nombre exact, mais au moins le double ou le triple. Je leur disais toujours, mais je ne suis pas ici pour décorer un siège.
Voilà.
C'était ma phrase. Avec un sourire, gentiment, je ne suis pas ici pour... Ça fait rire tout le monde, mais en même temps...
Je fais passer
le message.
Alors, Layla,
oui, moi, je pense qu'il est...
à vous, aux auditeurs.
En fait, c'est une question de légitimité.
Oui.
On ne se sent pas légitime à certains endroits. Et je crois qu'il faut travailler cette légitimité. Les femmes sont des citoyennes à part entière.
Ouais.
Et à ce titre, elles sont... partout à leur place. À partir du moment où vous avez envie, parce qu'il faut avoir envie de faire de la politique, c'est un engagement qui est fort, qui est chronophage, c'est un bel engagement au service de la citoyenneté. Donc si l'envie est là, vous savez, il y a un proverbe en anglais qui dit « When there's a will, there's a way ». Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Alors si vous avez envie d'y aller, allez-y, vous êtes légitime.
Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, bien sûr. Sachez, c'est une information importante et pour les futures générations, que pour aller et arriver à l'égalité parfaite, il va falloir attendre 12 échéances municipales. Oui, mesdames, 12 échéances municipales, ce qui équivaut à 70 ans. Elle ne sera pas de ce monde, peut-être, mais on s'adresse à la nouvelle génération, justement. Prenez votre destin en main. Merci, mesdames, d'être venues dans nos studios
pour nous
éclairer, justement, sur votre combat et votre engagement citoyen. Alors, vous voulez écouter écouter cette émission, c'est mercredi à 19h, mais pas que. Vous pouvez également écouter l'intégralité de l'émission dédiée à l'égalité et la parité, justement, résultat des courses de ces municipales 2026, mercredi à 22h. Et dans la matinale de jeudi à 8h du matin, vous pouvez écouter également un petit extrait, bien sûr, l'intégralité de l'émission dédiée effectivement aux élus de la diversité, mais aussi des femmes mères et femmes adjointes aux maires, et ben le samedi, si vous êtes dans votre cuisine ou ailleurs, à 9h du matin, vous avez l'intégralité de l'émission. Je vous souhaite une excellente écoute.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.